Belle réussite pour le premier congrès des maires du 04.
Vendredi dernier, Sisteron accueillait le premier congrès des maires des Alpes-de-Haute-Provence, adossé à l'Assemblée Générale Annuelle des Maires. À cette occasion, l'espace des mares était occupé par une quarantaine d'exposants sous l'égide du Dauphiné Média, régie publicitaire de nos confrères du Dauphiné Libéré. Des interlocuteurs habituels des collectivités territoriales, travaux publics, entreprises d'équipements photovoltaïques et autres énergies nouvelles, ou bien encore des organismes susceptibles d'élaborer des projets divers. Deux tables rondes ont été également organisées, dont la première sur la réforme territoriale qui inquiète l'ensemble des élus, la seconde traitée de la loi Création, Architecture et Patrimoine qui modifie certaines dispositions du Code de l'urbanisme concernant les communes. Ce premier congrès des maires 04 a tenu toutes ses promesses, riche en participation avec environ 350 élus recensés, la présence de Bernard Guérin, préfet du département, ainsi que nos parlementaires, aussi autour du président départemental Daniel Spagnou. Signalons aussi la venue du secrétaire général de l'Association des maires de France, Philippe Laurent, également maire de Sceaux, en région parisienne. Ce dernier développe au micro de Patrice Vernet plusieurs sujets brûlants et explique que les maires doivent être soutenus et défendus. Philippe Laurent.
Écoutez, moi qui visite à peu près 20 départements par an, donc assiste à une vingtaine de congrès. Je trouve que l'idée d'organiser en même temps que le congrès, c'est-à-dire l'Assemblée générale de l'association, les débats sur les problématiques actuelles des collectivités territoriales et cet ensemble de stands des partenaires économiques, je trouve que c'est une excellente idée. Partout d'ailleurs où je me déplace et où ça se passe comme ça, ça marche toujours parce qu'il y a vraiment un lien entre le milieu économique local et puis les collectivités territoriales sont des gens qui travaillent ensemble dans l'intérêt général, dans l'intérêt du service public auprès des citoyens, donc ça marche très bien. Et là, je trouve que la journée a bien été organisée par le président et par son équipe parce que et on voit bien que ça bouge, quoi. Enfin, voilà, il y a une table ronde, on revient. Enfin, voilà, c'est. Donc, c'est très bien.
Justement, deux tables rondes organisées sur des thèmes importants, et notamment dans notre zone rurale.
Oui, absolument. Donc, la question de l'avenir de la ruralité en France, c'est une question complexe et très importante. Il faut comprendre que le phénomène de métropolisation, c'est-à-dire d'attirance de la ville, il est inéluctable. On ne peut pas lutter contre ce phénomène en tant que tel. Mais en revanche, avec une volonté politique forte, on peut le contrebalancer, c'est-à-dire faire émerger, consolider, révéler tous les atouts de la ruralité, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs d'un territoire à l'autre, mais enfin les atouts de la ruralité. C'est pour ça que par exemple, l'action qui a été entreprise notamment par les collectivités locales, les départements, de résorption des zones blanches, d'installation du très haut débit dans tous les territoires, c'est une action absolument essentielle pour l'avenir des zones rurales. Je pense aussi que sur l'agriculture, on a tendance à raisonner en France, contrairement à ce qui se fait par exemple en Allemagne, trop en prenant l'agriculteur comme un simple producteur. Non, l'agriculteur, c'est aussi l'aménageur de l'espace. Il doit être l'aménageur de l'espace. Je sais que beaucoup d'agriculteurs, moi je suis d'une famille d'agriculteurs, ont cette conception. Mais encore faut-il les y aider. S'ils n'arrivent même pas à survivre avec leur production, ils ne vont pas, évidemment, avoir très envie de s'engager dans l'aménagement et dans l'entretien de l'espace rural. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Je trouve qu'on ne réfléchit pas suffisamment de manière horizontale. Les collectivités locales doivent pouvoir le faire. Que ce soit les régions, les départements ou les communautés de communes, elles doivent pouvoir le faire. Il faut leur donner les moyens de faire ça et de contrebalancer donc cette attirance pour l'urbanité qui est réelle, qu'on ne peut pas véritablement combattre, de contrebalancer cette attirance par des vrais schémas de développement et projets de développement pour la ruralité.
Vous comprenez que des maires de petites communes, 200 habitants ce matin, on en a parlé, soient inquiets comme ça, presque, j'aimerais dire, presque au bord des larmes.
Oui, oui, bien sûr, on comprend le phénomène communal. Le fait communal est un fait vraiment constitutif du patrimoine français, quoi. Donc, il y a des évolutions qui se font, il y a les communes nouvelles, qui sont donc un regroupement volontaire de communes. Ça a été expliqué donc largement ce matin, d'ailleurs. Et je sais que dans ce département, il y a une commune nouvelle qui a été créée. Il y a d'autres discussions qui sont en cours, mais il y a des départements qui sont pratiquement couverts par les communes nouvelles. C'est-à-dire que les communes se sont donc regroupées de manière volontaire. Les élus se sont mis d'accord, généralement avec l'accord et le soutien de leur population, pour créer donc des communes plus importantes qui peuvent davantage peser justement dans les assemblées. C'est ça l'intérêt. évidemment, une commune de 200 habitants, ça ne pèse pas et ça n'a pas de moyens non plus. Donc, on comprend. Mais je pense qu'il y a moyen d'équilibrer à la fois le poids politique par un regroupement de communes, mais la préservation des identités des villages. Bon, sauf que ça ne sera plus des communes juridiquement, mais ça peut rester, et ça doit rester des villages sur le plan physique, sur le plan de l'organisation du territoire. J'essaye d'aller à la fois porter cette parole pour dire d'abord aux maires des Alpes-de-Haute-Provence que leurs préoccupations sont partagées aussi par les maires du Nord, par les maires de la Manche, par les maires du Lot-et-Garonne et même par les maires des Hauts-de-Seine dont je suis, parce que nous sommes aussi tous très attachés donc à cette identité communale, tous. Mais la France est tellement diverse et les difficultés peuvent être différentes. Il y a des difficultés qui sont les mêmes pour tout le monde. La baisse des dotations, c'est la même difficulté pour tout le monde. Mais il y a des difficultés qui sont différentes dans des zones de montagne, dans des zones plus rurales, dans des villes, etc. naturellement.
On va ajouter pour la baisse des dotations que les nouveaux modes de calcul ne sont pas très favorables pour les communes comme Sisteron, justement, les zones rurales.
Oui, c'est pas aussi simple que ça. De toute façon, la réforme de la DGF, puisque vous parlez de ça, la réforme de la dotation globale de fonctionnement ne sera pas mise en application, ou en tout cas mise en application très partiellement en 2017, parce que effectivement, les simulations, etc., ont montré qu'il y avait vraiment de grandes difficultés. Mais j'allais dire, c'est un peu logique, parce que vous ne pouvez pas avoir un système uniforme qui s'applique sur l'ensemble du territoire français alors même qu'il y a des diversités énormes. Chez moi, une commune de 10 000 habitants, c'est une petite commune. Ici, une commune de 10 000 habitants, c'est une ville. Et elle rayonne sur tout un territoire, etc. Ce n'est pas les mêmes structurations. Et vouloir mettre en place des systèmes de répartition des dotations de l'État qui soient à peu près uniformes, ça crée évidemment des difficultés. Je pense qu'il faut avoir une démarche qui consiste d'une part à dire l'État doit assurer un minimum à chaque commune et ensuite laisser les communes entre elles, au sein des intercommunalités, au sein des départements, etc., négocier entre elles, parfois peut-être se fâcher, pourquoi pas, ça peut arriver, mais en tout cas discuter entre elles, donc la répartition des ressources financières. Mais je pense aussi qu'on a un autre souci majeur en France, c'est donc la fiscalité locale et le partage des grands impôts nationaux entre l'État et les grandes collectivités territoriales, les régions, les métropoles, etc. Parce que ça a un impact aussi, puisque les régions sont amenées aussi à financer les territoires et les communes par le biais de contrats qu'elles passent. Donc c'est important que les départements aient aussi des ressources dynamiques et pérennes. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, donc c'est une grande préoccupation. Vous voyez, par là même, je veux dire qu'il y a une solidarité entre toutes les collectivités territoriales. Si les régions et les départements vont mal, les communes iront mal aussi. Et moi, je souhaite et j'espère que ces débats viendront aussi à la une du débat présidentiel. Entre nous, je ne suis pas très optimiste, mais parti comme c'est.
Dernière chose, il faut défendre les maires.
Ah bah oui, bien sûr, faut défendre les maires. Faut défendre les maires parce qu'ils sont porteurs, en réalité, de la demande, de la volonté, parfois de l'espoir même de leurs concitoyens. C'est eux qui portent ça. Le maire est un personnage politique très particulier par rapport aux autres élus.
Souvent passionné.
D'abord, il est passionné, il connaît bien sa ville. D'ailleurs, le maire, c'est lui qui incarne le long terme dans ce pays. Parce que vous voyez, l'État n'a plus de politique à long terme. Il y avait dans le temps un commissariat général du plan qui avait une capacité à faire un peu de prospective. Ça n'existe plus. L'État n'a plus de capacité de réflexion à long terme. Les maires, quand vous êtes maire pendant 3 mandats, que vous élaborez votre plan local d'urbanisme ou votre carte communale, etc., vous avez l'obligation de réfléchir à long terme, de réfléchir à 10 ou 15 ans. Comment on voit la ville, sa commune,
évoluer,
avec quel partenariat, comment nouer des partenariats avec les autres. On est obligé de se poser la question. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on y arrive mieux. Oui, mais en tout cas, ces questions, elles doivent se poser. Donc le maire, c'est à la fois l'acteur du quotidien pour les habitants, dans le service public de proximité, etc., mais c'est aussi celui qui peut porter une vision pour son territoire. Et si tous les maires portent des visions pour leur territoire, eh bien, c'est pas forcément l'agrégation de ces visions qui fera la France, mais c'est quand même un peu ça.